souvent le football c'est un éternel reprouvement.
Il faudrait pas que le foot s'accapare dans nos têtes.
RMC.
C'est bien beau de faire des plans sur la comète, mais à force de dire que si... Moi, en tout cas, avec des si, je coupe du bois, mais...
Jusqu'à minuit, c'est l'after-foot, Nicolas Villas.
Oh, viva, soyez les bienvenus dans l'after, on est ensemble pendant 2 heures, c'est-à-dire 2 heures de bonheur. Avec nous, ce soir, pour cet after, Jonathan Macardy. Salut Jonathan.
Salut Nico, salut Fred.
Et puis ce soir, oui, parce qu'Ali Benarbia n'est pas là, habitué du samedi soir, mais lui aussi sait faire la fiesta. Et aussi, il a la fièvre le samedi soir. Frédéric Piquian, ça va Fred?
Ouais, bonsoir. Bonsoir à tous.
Bah, nous, on se connaît bien.
Bah oui,
les automatismes sont là, chaque week-end sur la première ligue, sur RMC Sport.
Exactement, la PL et tout. On est bien le samedi.
Bah, à cette heure-là, tu y arrives ou pas?
Ouais, mais non, mais là, je suis un peu fatigué parce que j'étais cet après-midi, il faut le souligner. Allez. J'étais à Reims, la capitale du champagne.
Et mais surtout, en parlant de ça, justement, la fête à Patrick Sanadic.
Ouais, dis, arrête,
ça veut dire Happy St. Patrick's Day, lads.
Voilà, parce que c'est demain. Patrick, quoi. C'est mieux comme ça.
Mais non, mais c'est en gaélique. On parle notre langue, monsieur.
Il y avait surtout une inauguration du musée des Bleus, ES. Et donc, j'ai fait un petit match avec Laura Georges et compagnie. Et c'était sympa. Très sympa.
Bien.
À Reims.
Au menu de cet after, la suite de la 29e journée de Ligue 1 avec la victoire notamment de Saint-Etienne 5-0 à Caen, la victoire 1-0 de Guingamp face à Dijon, match très important pour le maintien, 0-0 entre Angers et Amiens, 2-2 entre Nîmes et Strasbourg, alors que Nîmes était mené 2-0 dans cette rencontre. Je pense que Gilbert Rubois qui était là-bas, il doit pas être bien.
Ouais.
Le retour sur la première de Zidane depuis son retour, justement, on y reviendra dans quelques secondes avec Fred Hermel. Et puis on est à J-1 du classique entre le Paris Saint-Germain et Monaco. Thomas Tuchel, très remonté en conférence de presse aujourd'hui, il a répondu aux critiques des anciens parisiens et aux supporters mécontents. On vous pose cette question au 32-16. Est-ce que Tuchel a raison de défendre à tout prix son équipe? Voilà, c'est la question qu'on vous pose. Et puis donc, je vous rappelle donc les résultats de ce soir. Saint-Étienne donc qui s'impose 5-0 à Caen. Saint-Étienne qui avec ce résultat revient à un point de l'OM justement. Saint-Étienne qui est cinquième. Ils sont à un point de la quatrième place, les Stéphanois. Et puis en bas de classement, là aussi c'est un résultat qui est très important. La victoire de Guingamp 1-0 face à Dijon. Guingamp est barragiste avec 22 points. Dijon est avant-dernier avec 21 points. Guingamp qui est dernier avec 20 points. C'est très serré. On rappelle que le 17e, c'est Amiens avec 29 points pour l'instant. Résultat de Ligue 2 également. Lorient-Brest, il y a eu un partout. Brest qui est toujours deuxième. En Angleterre, Manchester City qui s'est imposé en quart de finale de la Cup à Swansea. Difficilement, hein, victoire 3-2. Le Real qui a battu le Celta 2-0. On va revenir dans quelques secondes. L'Athletic Bilbao qui a battu l'Atletico 2-0. Schalke-Nulfir qui s'est incliné à domicile face au RB Leipzig 1-0. Le Hertha qui s'est incliné à domicile 3-2 face à Dortmund. Victoire difficile également pour Dortmund. Et puis, match spectaculaire entre Sassuolo et la Samp en Italie. La Samp qui s'est imposée 5-3. Et la Roma qui a encore perdu 2-1 à la Spal en plus. Voilà, à la Spal. Il y a également du rugby ce soir, 19e journée du top 14, l'UBB face au Stade Français, Nico Paul-Orsi. Salut Nico.
Salut Nico, salut l'after. Ça joue depuis 57 minutes à Chabandelmas, 16-12 pour l'UBB qui a inscrit un essai en fin de première mi-temps par Cameron Rocky. C'est un match important parce que l'UBB est 6e, le Stade Français 8e et l'équipe qui perd ce soir, surtout si l'UBB s'incline à la maison, ça va être compliqué pour postuler une place dans les 6, synonyme de barrage pour l'équipe qui perd ce soir. Le ballon est pour les Bordelais qui sont plutôt mieux que les Parisiens dans cette partie, mais rien n'est fait. C'est très serré, 4 points d'avance, 16-12 pour l'Union Bordeaux-Bègle, 58 minutes de jeu.
Merci beaucoup Nico, et nous on va débuter cet after par le plus important, c'est les 3 points.
L'important c'est l'essentiel.
Le plus important c'est les 3 points.
Et souvent l'essentiel c'est le plus important.
Jonathan, tes 3 points ce soir.
Alors le premier point, ce sera Saint-Etienne. Le changement, ça a du bon. On a vu ce soir que Gasset avait été peut-être forcé de faire quelques changements dans le sens de départ qui n'a pas d'habitude de faire beaucoup tourner. Là, avec Berich et Nordin d'entrée, écoute, ça a donné quelque chose de convaincant parce que ça faisait un moment que Saint-Etienne, je les avais pas vu être bon dans le jeu, et là ce soir, c'est le cas. Le deuxième point, c'est le match nul entre Angers et Amiens qui a été somme toute assez ennuyeux, mais je tiens à souligner qu'Amiens reste quand même sur une bonne dynamique malgré ce nul concédé. Il faut dire que Guirassy qui a été hyper important pour eux depuis le début de saison, depuis le passage en 4-4-2 était suspendu, donc je reste quand même confiant pour Amiens. Et le dernier point, c'est Balotelli. On va savoir ce qui va se passer sûrement ce soir. L'OM à Marseille.
Alors, il est très incertain, il est grippé Balotelli. Voilà, c'est l'une des infos de la soirée d'ailleurs. Il a pas fait le voyage avec les joueurs de Marseille et il est pour l'instant incertain. Il pourrait rejoindre demain l'équipe, mais c'est pas encore.
Ok. Et écoute, s'il est pas là, ça serait une grosse file parce que l'équipe tombe bien en 4-4-2. Ils ont travaillé avec ça cette semaine, donc je suis assez inquiet pour Marseille pour le match de demain.
Fred Piquion.
Il m'a volé un point, Jonathan.
De toute façon, ça se recoupe, hein, t'inquiète.
Non, mon premier point, c'est Zizou et le Real. avec une belle victoire cet après-midi avec des choix.
Ah bon, tu commences pas, faut commencer par la Ligue 1 le samedi.
Mais t'as commencé déjà par la Ligue 1, on va continuer. Mais Zizou et le Real, je pense que avec des choix forts, je pense à Martiello, je pense à Bale et je pense à Isco. Et comme par hasard, c'est 2-0 et qui c'est qui marque, c'est Bale et Isco cet après-midi, deux bannis du stade. Deuxième point, je vais passer à Caen. On attendait une grosse réaction de Caen ce soir, mais finalement
Brice, une grosse claque, ouais.
Brice Samba, dès les premières minutes, il a bien lancé Saint-Etienne. Et mon troisième point, c'était Balotelli, info ou intox.
Ah, toi non plus, tu crois pas trop. On va dire, tu crois pas toi.
C'est bizarre.
Ouais.
Hier,
Rudy Garcia, en tout cas, il lui tressait des longes. Alors, il peut tomber malade aussi, Balotelli.
Il peut tomber malade.
Vous lui offrez des smectas, c'est bon, il a la gastro, ça
il
va.
C'est la grippe. Bah.
La grippe? Ah ouais, merde, c'est plus ennuyeux.
Ouais, ouais. Parce que je veux qu'il soit constipé en plus. le chef du smecta. Je vous donne mes trois points, les gars, également. Saint-Étienne, qui revient à un point de l'OM. Alors, c'est dire si demain le PSG Marseille va être aussi excitant, parce que quand tu regardes le calendrier de Saint-Étienne jusqu'à la fin de la saison et celui de Marseille, Marseille va encore se taper Lyon. Ils vont se taper un déplacement à Strasbourg.
36e Lyon.
Ils vont jouer le PSG. Ouais, ils sont pas mal, hein. Il va être pas mal ce match demain aussi, mais c'est vrai que la Saint-Té, ils sont peut-être en train de remettre un petit peu de piment à cette fin de saison. Le Tourelle, bien vénère également en conf de presse, on va y revenir dans quelques instants aussi. Et c'est vrai que sa réponse aux anciens du Paris Saint-Germain et aux supporters, on y reviendra en détail tout à l'heure, le collectif Ultra Paris qui fera grève des tribunes pendant une demi-heure demain, c'était assez fort également. Et puis Guingamp, parce que Guingamp, ils sont aussi en train de relancer la course au maintien. Il y a 2-3 mois de ça, on disait c'est bon, les mecs qui sont condamnés, ils vont jamais y arriver. Et ben là, ils sont en train de relancer justement cette course au maintien. Avant de revenir sur la Ligue 1, les gars, on va revenir sur le retour de Zidane au Real. Le Real qui cet après-midi jouait face au Celta Vigo. C'était la première de Zizou depuis son retour. Qui dit Real, qui dit Zizou, qui dit foot espagnol, dit Fred Hermel. Salut Fredo.
Hola chicos.
Salut Fred.
Et hola tocayo piquion. Vous savez ce que c'est qu'un tocayo?
Un tocayo?
Un tocayo.
Un nouveau?
Un tocayo.
C'est quelqu'un qui a le même prénom que toi. Mais non, quelqu'un qui a le même prénom que toi, on l'appelle un tocayo. Fred Piquion, Frédéric et mon tocayo.
Un homonyme.
Voilà, exactement, on appelle ça un tocayo ici.
D'accord. Merci Fredo, bonne soirée du coup.
Allez, merci.
Cours
non mais moi tous les jours j'apporte un petit truc.
Oui.
À l'édifice.
Alors Fredo, il était comment ce Real version Zizou, enfin re-version Zizou?
C'était pas un super match, hein. La première période était un peu chiante.
Ils ont marqué tard.
Ouais, 73e.
Ouais, dernier quart d'heure, je crois.
Voilà, c'est ça, dernier quart d'heure. Mais en fait, c'est 72e, 77e. 62e et 77e. Voilà, c'était pas un grand match, mais voilà, pour que l'histoire soit belle, il fallait qu'il y ait une victoire. Il y a eu une victoire contre un Celta Vigo qui est quand même 19e de la Liga, qui est quand même une équipe qui est en décrépitude. Et voilà, c'est plus l'émotion autour de Zidane et l'envie d'avenir et la projection sur l'avenir qui fait que les gens étaient contents, plus que sur le match lui-même. Parce que, mais encore une fois, Zidane a montré qu'il était très très fort, quoi. Il y avait quatre bannis au Real Madrid. Keylor Navas, puisque c'était Thibaut Courtois qui avait été choisi pour être le gardien titulaire par Solari. Isco, on avait souvent évoqué le problème, était souvent mis de côté. Marcelo était sur le banc et Asensio ne jouait que remplaçant. Puis il jouait titulaire que quand vraiment il y avait beaucoup de blessés. Donc il y avait quatre bannis de l'ère Solari. Et qu'est-ce que fait? Et hier Zidane dit en conférence de presse, on repart tout à zéro, on oublie tout, on efface toutes les ardoises d'avant. Moi, tous les joueurs comptent pour moi. Et qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui? Il aligne titulaire ces quatre mecs là. Il y a un type avec qui il s'entend pas, c'est Bale. Qu'est-ce qu'il fait? Il l'aligne. Non, mais il la joue très intelligent. C'est-à-dire vraiment tout. Il est très fort pour ça.
Et Fredo, on peut dire que le symbole de ça, c'est Isco finalement. Parce que je regardais, il n'avait plus été titulaire depuis le mois d'octobre en Ligue 1. C'est quand même lunaire.
Mais bien sûr.
Celui qui met le premier but, c'est fort quand même, quoi.
Voilà. Ouais, mais c'est là où il est fort, Zidane. Donc il a remonté des mecs, il les a remodelés pour la cause en fait, réactivés pour la cause, en disant mais c'est pas possible qu'il y ait quatre ou cinq mecs qui ne comptent pas dans un effectif. En plus des mecs qui étaient des titulaires avec lui. Donc ce soir, cet après-midi, il y avait 8 titulaires de la finale de Cardiff. La finale de Kiev, la dernière emportée de Ligue des Champions par le Real. Donc on est face à un mec, Zizou, qui connaît ce club, qui connaît ce vestiaire, qui sait comment parler aux joueurs et qui a tout réussi, quoi. Voilà. Après, il le dit lui-même, hein, c'est compliqué, il y a beaucoup de réglages à faire. Il a insisté, il y aura beaucoup de changements. qu'on chiffre ici à 5 ou 6 changements. Je parle d'infos là, pas de rumeurs. 5 ou 6 changements pour une équipe titulaire, c'est beaucoup quand même. Hein. En tout cas dans l'effectif, dans les 15-16 joueurs qui risquent de jouer beaucoup, qui jouent beaucoup aujourd'hui, il y aura 5 ou 6 changements de renom. Et Zizou a bien expliqué qu'il prenait pas ses matchs. Il a même dit c'est pas la cour de récré. Toi tu vas rester l'année prochaine. Non pas toi.
Fredo, tu lui as parlé à Zizou. On va l'écouter puisque t'as enregistré votre conversation justement. Tu l'as interviewé Zizou. Il t'a notamment expliqué d'ailleurs qu'il avait eu un discours très simple avec les joueurs. Écoutez-le, c'est au micro de Fred Hermel.
Mon discours, en fait, il a été vraiment simple, parce que les joueurs, c'est ce qu'ils avaient besoin d'entendre aujourd'hui. C'est juste se dire bon, qu'on se fasse plaisir, qu'on joue, quand on n'a pas le ballon, qu'on court ensemble, qu'on soit unis, et après qu'on s'amuse quand on a le ballon, et c'est ce qu'on a fait. Mais s'il y a un truc à sortir qui m'a beaucoup plu de la part de tout le monde, c'est vraiment, vraiment le fait qu'il y ait eu des centres et le fait qu'on soit rentré dans la surface de réparation et qu'on a voulu marquer.
Voilà, Zizou. Tu voulais dire Fred?
Ouais, Fred. Oui. Tu sais, t'as parlé de changement tout à l'heure par rapport à l'année prochaine. Il y a un nouveau joueur qui a signé à 50 millions d'euros. Est-ce que c'est Zizou qui l'a vu, qui l'a choisi, ou c'était déjà dans l'air du temps?
Non, c'était négocié avant Noël. Donc c'est la seule recrue qui ne sera pas décidée et choisie par Zidane.
Ouais, parce que tout le monde parlait de l'apport de Zizou, il vient d'arriver, etc.
Ouais, mais il est bon lui, hein. Il est bon. Hein.
On parle d'Eder Militão, hein, qui est le défenseur qui est actuellement au FC Porto. Ouais. Voilà.
21 ans, défenseur central qui peut jouer aussi latéral droit.
Ouais, qui joue à droite depuis le retour de Pep, ouais.
Voilà, et qui est un très bon joueur. Exactement. Aussi, un joueur d'avenir. Mais là, c'était un choix. Voilà, le Real l'a annoncé, mais c'est pas Zidane, il pouvait plus dire non parce que c'était fait. Donc voilà. Mais Zidane, il s'en accommodera très bien. Mais je vais vous dire, Zidane, là, les envies sont pas sur des défenseurs centraux de Porto, quoi. Voilà, il a de grosses ambitions au niveau du recrutement. Alors, et ce que je dis, c'est que même s'il se défend de juger les joueurs qui vont rester, qui vont pas rester, mais c'est pas le cas, parce que quelqu'un comme Marcelo, qui était annoncé partant, qui voulait partir, là il fait un match très correct aujourd'hui, et on sent qu'il a envie de se défoncer pour Zizou, et Zizou a envie de le récupérer pour la cause.
Bah c'est plus physique Marcelo, non Fred?
C'était plus physique, parce qu'il était pas bien, il est en surpoids.
Mais attends, mais Fredo, Marcelo, il était quasiment un pied déjà à la Juve, et tu penses que ça peut le maintenir là?
Et un truc tout simple, Zizou est nommé lundi soir, mardi il y avait repos jusqu'à mercredi, Isco et Marcelo se sont présentés à l'entraînement. Voilà, c'est des signes en disant voilà, nous on veut montrer à Zizou qu'on veut rester ici, quoi. Je pense que pour Isco ça sera compliqué, surtout parce qu'il y a sûrement Eden Hazard qui va venir, donc il y aura quand même un embouteillage à ce niveau-là. Donc, mais Marcelo, je pense que le retour de Zizou et puis Zizou, il doit s'appuyer sur certains piliers aussi. Voilà, Marcelo, c'est un vice-capitaine, il a besoin de. Et même si
Marcelo, il a quel âge, Fred, Marcelo déjà? 32.
32.
Ah, c'est...
Mais
il est sous contrat jusqu'en 2022, non? 21, 22?
Oui, bien sûr.
Oh,
oui,
ça va finir au PSG, tu vas voir.
après. Mais Marcelo, il sera sauvé. Il est évident, même si Zidane ne veut pas le reconnaître, il est évident qu'il va juger son effectif jusqu'à la fin de la saison, à l'entraînement, dans l'application au quotidien et dans les matchs. Et puis, il va décider de ceux qui vont rester et ceux qui vont pas rester. Ça, c'est évident.
Il a joué, non?
Ouais, il a pas été, il était bon parce que c'est lui qui est à l'origine du premier but sur une passe décisive de Benzema pour Isco.
Alors, puisque tu parlais des changements à venir, là, pour la saison prochaine, on va accueillir, Yannick, supporter du Real qui nous a appelé au 32-16. Salut Yannick!
Bonsoir messieurs.
Salut Yannick.
Alors Yannick, toi tu dis, faut faire un grand ménage la saison prochaine du côté du Real Madrid.
Ah bah oui, enfin, là de toute façon comme on dit, ça fait plusieurs, je crois que tout le monde s'est aperçu qu'on était un peu en fin de cycle, donc déjà il va falloir dégager un petit peu d'espace. Je pense que Toni Kroos, ça va partir, Bale, ça dégage, Asensio, ça part, Isco, ça part. Je dirais même presque, honnêtement, je vais même aller un peu loin, mais même Luka Modric, on va voir, mais...
Bah il voulait partir déjà.
Ouais,
Modric, il voulait une augmentation de salaire l'an dernier, donc. Il voulait pas partir.
Et voilà, donc du coup tu pars, tu fais de la place. T'as les moyens de recruter. Moi, je ferais un petit recrutement devant. Je prendrais Icardi. Je pense qu'un mec comme Zidane, il arrivera à gérer. Puis au Real Madrid, il devrait se calmer. Ouais. En milieu offensif, un petit Eden Hazard. Et après, je prendrais deux joueurs au milieu de terrain. Je prendrais Eriksen, Alcantara. Histoire vraiment d'avoir une base solide.
Eriksen, oui, Alcantara,
c'est pas possible.
du Bayern, non.
Après, je pense pas que lui, si on lui propose le Real,
c'est pas du coup Zidane.
C'est pour l'image du Real, je pense pas qu'ils vont chercher à le contrat.
Non, puis c'est pas une priorité de Zidane, puis
ouais, Thiago quand même, il est quand même. Des mecs à 80 millions, tu vois, à un moment donné.
Ça va être ça. Le Real va claquer 500 millions,
Il paraît qu'ils veulent claquer 300, Fred.
Ça va coûter 100. Icardi 100, Taki, t'as Hazard, ça va coûter 150. Eriksen, ça va coûter ce cas,
Mbappé. Ils vont tenter Mbappé ou Neymar, bien entendu.
Ouais, mais c'est trop cher, ça, c'est trop cher.
Ils n'ont pas dépensé depuis combien d'années, là? Mais ça fait 5 ans qu'ils dépensent pas,
ils vont vendre.
Bale, c'est 120 millions. Et c'est pourquoi il est titulaire Bale aujourd'hui? Pourquoi il est titulaire Bale?
La qualité des joueurs, en fait.
Pourquoi il est titulaire Bale aujourd'hui? Tout simplement parce que on peut pas, faire tomber le prix d'un joueur. Bale, s'il joue, il marque encore. Les buts qu'il met, ça permettra de vendre plus cher.
Moi, je pense qu'il l'a fait jouer pour envoyer un signe au reste du groupe pour la fin de la saison en disant que les cartes étaient totalement rabattues. Il y avait un club qui était totalement tricard sous Solari. Les cartes sont rabattues, tout le monde a sa chance et c'est pour maintenir son
groupe. Cet après-midi, il n'y avait pas Vasquez, il n'y avait pas Vinicius, donc c'est aussi pour ça.
Il a pas mis Reguilon, il a mis Marcelo, il a pas, tu vois, non, mais les choix. Il y avait quatre bannis, ils ont tous mis. Courtois, il pouvait être titulaire aussi, il est renfort.
Ça, c'est bizarre, par contre, Fred.
Mais non, c'est simplement parce qu'il veut montrer que tout le monde est impliqué, il a voulu impliquer tout le monde. Et puis, il faut pas oublier que Zizou adore Navas. Et que l'an dernier, il s'est battu pour que, Kepa Arrizabalaga, le gardien de Bilbao, qui est toujours lié à Chelsea, ne soit pas recruté en janvier. Parce qu'il voulait conserver,
le groupe,
et puis surtout Navas.
Après, Fred, c'est quand même curieux. Parce qu'intrinsèquement, il n'y a pas photo entre les deux, quoi.
Bah, moi, je vois que Navas a gagné 3 Ligues des Champions en étant décisif à chaque fois.
Ouais, mais Courtois, c'est quand même un petit niveau au-dessus, Fred.
En tout cas, Zizou,
Courtois va alterner.
Courtois l'a pas montré, Fred, t'as raison. Courtois n'a pas montré grand-chose pour l'instant.
C'est pas le Courtois de l'Atlético, ses premières saisons de Chelsea.
Non, loin de là. Mais pour répondre à notre auditeur, il y aura beaucoup d'achats. Donc, moi, je te dis, ton prénom, c'est comment, pardon?
Yannick.
Aujourd'hui, plus rien n'est impossible au Real.
Ah oui, vraiment. Bien sûr.
Mais vraiment, parce que là, ils sont dans une logique. Mais c'est plein de joueurs extraordinaires qui vont arriver. Et alors, c'est ce que tu veux dire.
Quoi.
Ah mais oui, mais bien sûr, parce que le Real Madrid. Ouais. Mais à partir du moment, alors Zidane, pendant tout le temps, il est entraîneur du Real Madrid. Il défendait toujours le groupe en disant que personne n'allait bouger, que
Mais depuis qu'il est arrivé, il dit qu'il y en a plusieurs qui vont partir.
Moi, je trouve il a gagné trois Ligues des Champions, d'accord,
mais le truc, c'est qu'on est un peu, il est un peu mort avec ses idées à la fin, parce que moi, je veux bien qu'on ait gagné.
Il n'est pas mort, il a gagné.
Non, attends, moi, il a gagné la première Ligue des Champions. Mais l'année dernière, on finit à 15 points du Barça. On prend 3-0 chez nous contre le Barça. Tu les as vus comme moi, les matchs, on a été nuls toute la saison. Alors, la Ligue des Champions, il s'est passé un truc pour moi, un petit peu surnaturel. C'était vraiment un groupe qui s'est surélevé. Mais pourquoi Zidane a convaincu le groupe
d'aller jusqu'au bout. C'est pour ça. Comme il a senti que le groupe n'était pas capable de faire ses efforts en Liga et en Coupe, il a décidé de partir. Voilà, tout simplement. Et c'est pourquoi il va changer cet été. 5 ou 6 recrues de haut niveau qui vont bousculer de manière énorme le 11 du Real. Ça, c'est sûr. Mais d'ici là, il faut gagner des matchs, il faut continuer. Avec la défaite de l'Atlético, le Real revient à 2 points.
Alors justement, j'allais venir, on glisse un mot quand même, l'Atlético qui perd 2-0 à Bilbao ce soir, et effectivement le Real qui revient à 2 points, ça va pas fort là pour l'Atlético, après l'élimination face à la Juve, et là c'est compliqué.
C'est compliqué, en plus il y a eu des histoires à l'entraînement cette semaine, de grosses tensions. Stefan Savic en est venu aux mains avec le prof Ortega, Oscar Ortega, le préparateur physique, c'est-à-dire qu'il y a quand même un moment où le tout physique et la grosse charge de travail commencent à peser. Et beaucoup de joueurs ont reproché à Ortega d'avoir fait une séance ultra dure la veille du match à Turin, la veille du match de Ligue des Champions. C'est-à-dire que même là-bas, il leur a mis une charge de travail énorme, et il y a beaucoup de joueurs qui en ont un peu marre, et on raconte aussi que le Mono Burgos, l'adjoint de Simeone, a des petits problèmes avec Simeone à cause de d'Ortega, qui en fait trop dans la préparation physique. À un moment, tu fatigues les joueurs, Fred, toi t'es joueur, tu sais, c'est bien, mais trop, à un moment, ça...
Mais il faut des cycles, en fait.
Voilà.
Et j'ai l'impression qu'il n'y a pas de cycle, justement, à l'Atlético.
C'est un peu long, quoi.
Voilà. Enfin, le cycle, il commence le 15 juillet et il finit le 15 mai, quoi, en gros, quoi.
L'Atlético, c'est aussi une équipe qui est plus ou moins en fin de cycle. Il y a pas mal de joueurs cadres à l'image de Godin. Je pense que c'est plus la fin de l'histoire qu'autre chose. Et, on s'était enflammé sur le mercato estival qu'ils avaient fait avec Rodri, il y avait
Thomas Lemar.
Thomas Lemar, c'est un bon joueur aussi.
Tu vois, par Rodri et le petit Arias derrière.
Ouais, latéral.
C'est vrai que je trouve pas que les recrues
sont, les recrues, c'est pas vraiment ça, hein.
Moi, pour parler de Thomas Lemar, je pense que c'est pas l'équipe pour lui, en fait.
Non, c'est pas
le style pour jouer à l'Atlético.
Après, rappelons-nous que Griezmann a mis un peu de temps aussi à s'adapter à l'Atlético. Là, c'est possible qu'une saison,
voilà. Et l'info, Griezmann, sur le retour à Barcelone, c'est une info ou une intox?
J'ai vu que ça vient d'être publié par un très grand journaliste qui s'appelle François Verdonnet. Ex de France Foot maintenant à l'équipe, ça vient de tomber. François est un garçon très bien renseigné, donc que le Barça ait envie de revenir à la charge, ça m'étonne pas, et que qu'Antoine Griezmann soit très déçu
de la saison,
d'être éliminé en huitième de finale, ça aussi.
Ça peut jouer.
Après, n'oubliez jamais une chose, la composante familiale.
Eh oui.
Erika, l'épouse, et qui porte le deuxième enfant d'Antoine. Aime vraiment Madrid, quoi. Donc il y a toujours un équilibre à trouver entre le familial et le sportif. Après, ce que je sais depuis longtemps, c'est que d'un côté il y a la famille en France de Griezmann qui veut absolument qu'il aille au Barça, et la famille nucléaire, la famille madrilène, sa femme en particulier veut rester à Madrid, quoi. Donc je pense que cette histoire va durer longtemps. Mais après, je vous confirme, moi, quand je vois sortir une info, je regarde toujours le nom du journaliste. François Verdonnet est un ami, est un immense journaliste qui n'écrit jamais, jamais sans avoir une info sûre.
Manfredo, merci beaucoup.
Merci.
Bonne soirée, Fredo.
Merci, les amis.
Bonne nuit.
Au plaisir. Et puis, on se reparle très vite.
Ouais. Repose-toi un peu, parce que là, t'as bien charbonné, je crois, ces derniers.
Ah ouais, mais là, c'est...
Ouais, je sais, ouais.
Mais bon, c'est le bonheur. Vous savez, je vous racontais, aujourd'hui, j'ai pris un coup de soleil à Bernabeu aujourd'hui, au mois de mars.
Putain, mais t'as une vie de dingue, frère.
Mais c'est fou.
Mais c'est incroyable,
Fredo. Au mois de mars, on prend des coups de soleil à Bernabeu. Oui, monsieur.
Mais viens,
Fredo. Et pas qu'à cause de la lumière qui jaillit de Zizou.
Allez, ça suffit, on va lancer la Ligue.
Merci,
hein.
Fredo.
Allez, salut, Fredo.
Attends, il y a
Constantin
qui nous attend, Fredo. Là. Faut
qu'on un peu de Ligue 1 maintenant, merde.
Adios.
Ciao, bonne nuit, Fredo, merci. Attends, avant ce Saint-Écamp. Quoi? Mais oui, UBB Stade Français, Nico Paul Orsi.
C'est chaud, c'est très chaud, il reste 8 minutes, le score n'a pas bougé. 16-12 pour l'UBB, mais l'UBB est à 3 mètres de la ligne d'en but des Parisiens. Après une merveille de passe au pied de Brock James récupéré par Semira Dradra, qui a galopé sur 50 mètres et qui est venu échouer à 2 petites mètres de la ligne d'en but. Ils sont désormais allez à 50 cm et les avants qui font le taf là pour essayer d'aller aplatir avec Apatia, avec Alexandre Roumat également, et Monsieur Gaudier qui va rendre le ballon au Stade Français. Paris 1 en avant des Bordelais. Il reste moins de 8 minutes dans cette partie. 4 points d'avance pour les Bordelais qui mènent 16-12.
Merci Nico. Dans quelques instants, donc, on revient sur le succès, large succès des Stéphanois. 5-0 à Caen. Voilà. Et on vous attend, supporters des Verts, supporters normands au 32-16 avec Fred Piquion et avec Jonathan Macardy. À tout de suite.
RMC. L'Afterfoot. Nicolas Villas.
En compagnie de Fred Piquion et de Jonathan Macardy. Avant de revenir sur les affiches de ce samedi de la 29e journée de Ligue 1, UBB Stade Français, 19e journée du top 14, Nico Paul Orsi.
Il reste 5 minutes et l'UBB a marqué des points. 19-12, 3 points, une pénalité de Mathieu Jalibert qui est impeccable ce soir. 5-5 pour le buteur de l'UBB après une mêlée où les Bordelais ont fracassé le pack parisien qui s'est complètement fait enfoncer. Donc pénalité en face des perches pour Jalibert. Le score, 7 points d'avance désormais. 19-12 pour l'UBB. Il reste un petit peu plus de 4 minutes au Stade Français pour tenter de recoller.
Merci beaucoup Nico, on vous rappelle les résultats de ce soir de la 29e journée de Ligue 1. Saint-Étienne qui est allé gagner 5-0 à Caen, victoire 1-0 de Guingamp face à Dijon, 0-0 entre Angers et Amiens, et Nîmes et Strasbourg qui ont fait match nul 2-2. Strasbourg qui menait 2-0 dans ce match après début de Motiba et de Fofana, et Liboy en seconde période a marqué le but du 2-1 pour Nîmes, et puis c'est Savagnier sur penalty qui a égalisé en toute fin de match. On est en direct dans l'after avec Laurent Boissier, le coordinateur sportif du Nîmes Olympique. Bonsoir monsieur Boissier, merci d'être avec nous.
Bonsoir à tout le monde.
Alors, on a envie de vous dire bravo pour cette victoire, tant le scénario, s'apparente à une victoire, malgré ce nul à domicile face à Strasbourg.
Ouais, c'est vrai qu'on est capable, nous, de, on a prouvé depuis plusieurs saisons maintenant de remonter des situations un peu qui paraissent compromises. Après, c'est vrai que le troisième but qui marque et où l'arbitre revient sur la VAR avec la faute, ben, ça nous a permis de rester dans le match puisque sur le coup franc on marque. Maintenant, si on fait des prestations comme ça en première mi-temps, coup de temps, ça va être compliqué de prendre beaucoup de points, quoi.
Voilà. Ah. Justement, Laurent Boissier, parce que vous faites allusion à l'assistance vidéo. Alors c'est vrai qu'on a vu ces derniers jours en Ligue des Champions beaucoup de commentaires qui ont été faits par pas mal d'acteurs du foot également. Comment vous le vivez, vous, en tant que dirigeant justement de Nîmes?
Non, moi je dis que c'est quand tu arbitres au niveau, c'est compliqué parce que maintenant ça va de plus en plus vite. Donc moi je trouve que c'est super qu'ils soient assistés par des moyens technologiques qu'on n'avait pas avant. Maintenant, après, c'est vrai que de temps en temps, ben, on se demande des choses où on ne comprend pas trop, mais bon voilà, c'est. Moi, je dis que c'est un outil merveilleux et même si des fois ça nous desservira à nous, bah, ce soir ça nous a servi, donc tant mieux.
Laurent Boissier, coordinateur sportif de Nîmes, est en direct avec nous dans l'after. Nîmes qui a fait match nul 2-2 face à Strasbourg ce soir. Jonathan Macardy, une question pour vous, Laurent.
Bonsoir, Laurent.
Salut.
Je voulais vous féliciter pour l'ensemble de la saison parce que c'est quand même, vous avez quand même été un peu une des attractions, notamment en début de saison de notre bonne vieille Ligue 1. Après, voilà, écoutez, moi, j'avais l'impression que ça allait un peu moins bien ces derniers temps. Ça fait un petit moment que vous n'avez pas gagné aussi. Vous n'avez pas pu enchaîner une belle série de victoires. Est-ce que vous sentez que le groupe est fatigué? Est-ce que c'est, un petit coup de mou, comment ça se passe et puis comment vous voyez la fin de la saison?
Bon, je pense que oui, c'est vrai qu'on était sur deux matchs sans victoire. Maintenant, sur les deux matchs, on était allé jouer au Parc où je pense qu'il n'y a pas grand monde qui prendra des points et qui en a pris. Ensuite, on était allé jouer à Amiens avec, on a eu ce petit problème avec les 15 jours de repos, on n'a pas joué contre Rennes, donc on a perdu peut-être un peu de rythme. Puis, bon, Amiens a fait un bon match avec de l'engagement, une chose que nous, on n'avait pas répondu présent par rapport à ça, alors que c'est nos valeurs. Après, ce soir, voilà. En première mi-temps, je crois qu'ils tirent une fois au bar, ils marquent. Nous, on a deux ou trois situations, on les met pas au fond. Peut-être que nous, on en met un peu moins en ce moment, et quand on en met un peu moins, ben, on paye cash, et c'est normal, parce qu'on est une petite équipe de Ligue 1, et qu'on va tout le temps à 120%, parce que quand on joue à 80, eh ben, ça passe pas, et c'est normal, c'est la réalité du football. Maintenant, à la fin de saison, bon, on a 37 points ce soir, il en manque encore un petit peu, mais pas beaucoup. Normalement, ça devrait être bon. Mais il faut bien la terminer, il faut finir comme il faut et continuer à progresser parce qu'en fait, quand t'as fait 28 matchs de Ligue 1, tu es un très petit club de Ligue 1, donc nous, faut pas qu'on pense qu'on est arrivé quelque part parce qu'on est nulle part. Et il faut continuer à retrouver nos valeurs qui nous font défaut depuis 3 semaines à moi, quoi. Voilà.
Alors justement, Laurent Boissier, quand on est coordonnateur sportif d'un club comme Nîmes, il y a pas mal de joueurs qui sont en train de briller cette saison. Est-ce qu'on a un peu flippé à l'idée de perdre certains de ses meilleurs joueurs justement l'été prochain?
Ouais, un petit peu, c'est clair, mais bon après. C'est la loi du football, hein. Moi, je souhaite à mes joueurs qui sont vraiment depuis 4-5 ans d'aller jouer dans des grands clubs et de voir peut-être autre chose. Maintenant, c'est sûr que quand on s'attaque à tes meilleurs éléments et quand t'as pas forcément les moyens financiers pour répondre, c'est sûr que tu es en difficulté. Mais bon, on va dire que les joueurs sont bien animés, c'est beau, il y a un bon public, on a des bons résultats, donc, il y aura pas d'exode, hein. Faut pas penser qu'il y aura un exode à Nîmes, il y en aura pas. On est quand même assez solide financièrement pour résister à pas mal de choses, donc j'espère que qu'on va garder la quasi-totalité de nos joueurs sous contrat, quoi. Enfin, en tout cas, on va essayer.
Laurent Boissier, coordinateur sportif de Nîmes, qui a fait match nul 2-2 face à Strasbourg ce soir. Fred Piquion a une question pour vous.
Ton micro, Fred.
Pour allumer, en fait.
Oui, c'est clair. Oui, bonsoir, Laurent. Non, c'est Nîmois.
Une question de Nîmois, elle va être bonne.
Ouais, exact. Non, je voulais juste savoir, justement.
Il restait une place devant.
Ouais, j'y reste. Ouais. Je ressource les crampons pour l'année prochaine.
Et un petit régime avant, hein.
Non, je voulais juste savoir si, justement, le centre de formation restait quand même une priorité puisque on connaît un petit peu justement les finances de ces clubs là et de quand on remonte etc. Est-ce que vraiment le centre de formation va permettre à Nîmes Olympique de pouvoir se reposer mais en tout cas être un peu plus serein sur la Ligue 1?
Bon, Tu sais, Fred, c'est les générations décembre, tu sais, des fois tu signes deux contrats, des fois tu ne signes pas pendant deux ou trois ans. On a une équipe cette année avec Valls, Bobichon, Ripard, Briançon, Paquies, je ne vais pas tous les citer, mais bon, ouais. On a 7 joueurs du centre qui sont déjà dans l'équipe, c'est déjà énorme pour nous. Je crois qu'on est l'équipe en France qui a le plus de joueurs qui jouent dans de saison de formation. Après, bien entendu, moi, je suis du moins et je suis attaché à mes valeurs au secret, donc plus j'aurai de niveau dans l'équipe et plus je serai content parce que quand tu es moi, tu le sais, hein, tu sais comment ça se passe ici. Tu es obligé de crumble, de mouiller ton maillot et de mettre une image que voilà. Donc moi, j'aimerais, hein, mais bon, c'est pas facile. On est en centre de formation, on est le 5 ou 6e choix parce que tu passes après tout le monde. Donc c'est compliqué d'aller chercher des joueurs à l'extérieur. Donc il faut travailler le bassin du Mois, le bassin d'Arbois, qui c'est un gros bassin, mais bon, ça se fait pas comme ça, tu vois. Il y a tellement de choses à mettre en place quand tu es un petit peu comme nous que de temps en temps tu en délaisses certaines, tu vois. Moi, je suis pour la formation à 2000% parce que voilà, je pense que c'est l'ADN de mon club, l'ADN minimum olympique et de ma ville. Donc, oui, bien entendu qu'on va tout faire pour essayer de former le plus de gamins possible.
Jonathan, tu avais une question pour Laurent.
Oui, Laurent, on est au mois de mars, le maintien est quasiment acquis, donc je suppose que vous commencez à travailler déjà sur l'intersaison pour préparer au mieux la prochaine saison de Ligue 1. Quels sont vos principaux axes de travail? À quel poste vous souhaitez recruter en priorité?
Moi, si tu veux, je pars du principe que c'est moi seul, j'ai pas de cellule de recrutement, j'ai pas de scout, j'ai rien, donc je bosse tout seul dans ce domaine-là. Et je bosse toute l'année, je n'attends pas le mois de mars pour me demander qu'est-ce qu'il va me falloir l'année prochaine. Bon, après, en étant un peu, on va dire, objectif, il y a Baptiste Guillaume qui va retourner sur son prêt, il y a Rachid Adil qui est en plein contrat. Donc voilà, les axes, bon, ce sera certainement le secteur offensif qu'il va falloir chercher, puisque c'est là où on va être démuni le plus rapidement possible, quoi. Voilà.
Mais comment vous faites pour bosser si vous n'avez pas de scout, justement?
Ben,
système D?
Sur des ordinateurs, je travaille. Ouais. Je passe des 10 heures par jour à regarder des matchs, à essayer de trouver des choses qui sont pas chères et qui peuvent rapporter gros. Voilà. Après, est-ce que ce système est viable à long terme? J'en sais rien. Ça fait 4 ans que je bosse comme ça, donc pour l'instant, ça se passe, on va dire, pas trop mal. Maintenant, j'ai pas assez de recul sur le haut niveau dans mon métier pour savoir si ça va être viable à long terme. Maintenant, on va dire que pour l'instant, ça se passe pas trop mal. Voilà. Mais c'est vrai que c'est beaucoup d'heures de travail, beaucoup de vidéos, beaucoup de, ouais, voilà, des recherches, quoi. Ouais. Des recherches tout le temps.
Laurent Boissier, est-ce que vous avez des nouvelles de Sofiane Alakouche également, qui est sortie sur blessure aujourd'hui face à Strasbourg?
Ouais, c'est pas très rassurant. Sofiane et Loïc Lambre, en plus, c'est sur des genoux les deux, donc on peut pas donner un diagnostic maintenant parce que c'est trop tôt, mais bon, voilà, ils sont touchés tous les deux aux genoux, donc c'est pas une bonne soirée à ce niveau-là. Voilà. C'est une soirée, on va dire, qui est sympathique par rapport au retour qu'on a fait parce qu'on était en temps de difficulté, on prend un point. Mais par contre, au niveau du groupe, on perd deux joueurs et deux défenseurs en plus. Alors, sachant déjà qu'on a un groupe hyper résil, ouais, voilà, on va essayer de trouver des solutions. Mais bon, pour le moment, c'est vrai qu'on va être handicapé encore. Voilà. Mais bon, on a l'habitude d'être toujours dans la difficulté ici. Alors, donc, ouais.
Dernière question, Laurent Boissier. Votre prochain match, ce sera Saint-Etienne. Saint-Etienne qui revient à un point de Marseille au classement.
Ouais, j'ai vu, ouais.
Si vous deviez mettre une pièce là sur la 4e place, c'est quoi? Marseille ou Saint-Etienne?
Je crois que c'est deux belles équipes déjà parce que, en plus, bon, j'ai un côté affectif parce que je suis ami avec Jean-Louis Gasset. Donc, j'espère que pour lui que ce sera lui. Mais bon, il faut pas, loin de Marseille aujourd'hui, produit quelque chose de merveilleux, un super jeu avec l'arrivée de leur attaquant et s'ils sont sur une super dynamique. Donc, c'est vrai que Marseille, je le vois bien finir maintenant. La vérité de, ça va tellement vite dans le football. Donc, c'est vrai, c'est, les blessures, les suspensions, il y a tellement de choses qui ne rentrent pas en compte. Mais bon, c'est vrai que Marseille est sur une belle dynamique. Je pense qu'ils vont finir en prendre la première. Malheureusement, on va à Saint-Etienne, on va à Marseille. Donc, c'est pas encourageant. Ouais.
Vous pourriez être l'arbitre de cette 4e place, justement.
Ouais, on va essayer d'être l'arbitre, mais on va essayer de ne pas prendre le coup non plus. Donc, ça va être. On va à Lille aussi. Donc, ouais, c'est vrai que c'est. On reçoit Lyon, on reçoit la coupe. Bon, moi, il vaut mieux prendre un peu des points avant d'aller prendre la foudre chez ce mec-là, quoi.
Merci d'avoir été avec nous, Laurent Boissier. Merci beaucoup.
Ouais, merci, et encore bravo pour ce que
bonne soirée et à bientôt dans l'after.
Ciao,
merci. Merci. Au revoir, bonne soirée. Voilà, Laurent Boissier, coordinateur sportif du Nîmes Olympique, est en direct avec nous dans l'after. On rappelle que l'assistance vidéo a beaucoup été utilisée d'ailleurs dans ce match entre Nîmes et Strasbourg. Il y a eu 2-2 au final. Tweet de Gilbert Bribois, alors qui était au stade des Costières avec d'ailleurs Jean-Jacques Bourdin également. Nouvelle invention. Une équipe qui mène 3-0, puis a fait 2-2. Eh ouais, mon gars.
Ah, il doit avoir la haine, ouais.
Bah, il peut être vénère.
Ouais, dégoûté.
Il doit être dégoûté. 19e journée de top 14, UBB Stade Français, c'est fini, Nico Paolo Orsi.
Avec la belle victoire de l'Union Bordeaux-Bègles, 26-12, un essai dans les deux dernières minutes, inscrit par Yann Lesgourg sur un magnifique boulot de Radradra qui, à 1 contre 3, a réussi à déborder la défense parisienne et offrir un caviar à Lesgourg. Victoire précieuse pour l'UBB qui conforte sa place dans les 6. Le Stade Français reste 8e, ça va être compliqué pour le Stade Français Paris d'aller chercher une place synonyme de barragistes, parce que là, il va falloir cravacher. Ça revient très très fort derrière. 26-12 pour l'UBB.
Merci beaucoup, Nico. Demain, tu seras en mode Gironde.
Exactement, pour la première de Paolo Sousa.
Eh ouais, la première de Paolo Sousa.
Paolo Sousa. Ouais. Ouais. Et ça a changé. Il a changé pas mal de choses, Paolo Sousa. Hein.
J'ai peur qu'ils soient déjà cramés, mais... les mecs, demain, moi. Mais ils ont pas l'air d'être habitués au rythme. J'ai lu ton papier, là, les mecs, ils galèrent.
Ouais, j'ai lu aussi.
Ouais, je crois que c'est dur. Bon, après, à leur décharge, ils ont quand même joué déjà quasiment 50 matchs, hein, parce qu'ils se sont fadés toutes les phases de préliminaires de la Ligue Europa. Ouais. Donc, la saison est très très longue pour les Bordelais.
Merci beaucoup, Nico.
Salut,
bonne soirée. Bonne soirée. Voilà. Et si vous voulez lire d'ailleurs les informations sur les Girondins de Bordeaux, vous allez sur rmcsport.fr. Toutes les infos. Nico qui vous raconte, hein, justement, les premiers jours de Paolo Sousa du côté des Girondins de Bordeaux.
C'est bizarre. C'est bizarre quand même. Quand on est coach, la première chose qu'on arrive quand on est dans un club, c'est le physique. Tout de suite. Il faut mettre de l'intensité, du physique, du rythme.
Et lui, c'est le moteur.
Hein. Lui, bosse comme ça. Dans quelques instants, on va revenir sur la victoire de Saint-Etienne. 5-0 à Caen. Ouais, supporter des Verts, supporter normand. À tout de suite au 32-16 avec Jonathan Macardy et Fred Piquion.
RMC. L'afterfoot. Nicolas Villas.
Accompagné de Fred Piquion et de Jonathan Macardy. Je vous rappelle les résultats de ce samedi soir, 29e journée de Ligue 1. Guingamp qui a battu Dijon 1-0, match très important pour le maintien. Guingamp qui est barragiste ce soir. Angers-Amiens 0-0, 2-2 entre Nîmes et Strasbourg. On était avec Laurent Boissier, coordinateur sportif du Nîmes Olympique, à quelques instants dans l'after. Tiens, un petit mot également sur ce Angers-Amiens. Stéphane Moulin qui a expliqué en conf de presse qu'il méritait de gagner. On rappelle qu'ils ont raté un pénalty entre les Angevins. Voilà, 0-0 entre les deux équipes.
Ah, ils auraient pu en prendre un autre aussi.
Ouais,
un autre pénalty qui a pas été.
C'est dommage. Moi, j'ai trouvé Amiens moins bon que d'habitude. On l'a dit, hein, ça va mieux depuis qu'il met tous ses atouts offensifs, qu'il ait peut-être trouvé ce 4-4-2 un peu à l'ancienne, quoi, 4-4-2 vraiment à plat. Là, écoute, ils avaient des absents, ils sont repassés, ils ont essayé de garder ce 4-4-2 en mettant Timité devant, mais ça avait pas le même impact, je trouve, et on sentait que voilà, les absences sont fait sentir côté Amiens. Mais un peu déçu de leur match quand même.
On parle du carton de la soirée.
Bah Saint-Etienne
qui est allé gagner 5-0 à Caen. Amouma, Beric, Nordin, Ghezali et Vada ont marqué les 5 buts des Stéphanois dans cette rencontre. Ça fait 8 matchs en victoire en Ligue 1 pour le Stade Malherbe de Caen. Alors Saint-Etienne qui restait sur 2 défaites, qui se relance bien sur ce match.
Ouais.
Mais c'était
pas extraordinaire sur les derniers
matchs. Non, mais c'est surtout quand on voit le match, c'est très inquiétant pour
Caen. Ouais. Ah ouais, c'est super inquiétant. Mais merci à... On va dire merci à Brice Samba sur le premier but. C'est, on va dire que c'est encore lui, mais quand même cette faute de main qui a bien lancé Saint-Etienne ce soir. Ouais. Alors
après, c'est pas que lui.
Non, mais il y a pas que lui, mais quand même, quand tu au bout de 2 minutes, au bout de tout, ça fait des mois et des mois qu'on te dit on est à domicile, il faut faire les efforts, état d'esprit irréprochable, et qu'au bout de 2 minutes,
ça peut te faire un match. T'as vécu ça?
Bah oui, bien sûr.
C'était qui?
Pardon.
C'était qui le gardien?
Non, je dirais pas. je balance pas.
Mais après,
ça fait mal.
C'est pas juste. Ok, Caen a été vraiment mauvais ce soir. Caen, de toute manière, là, c'est la Ligue 2 assurée, il me semble, vu les prestations, vu le classement, vu le nombre de points.
Après, mathématiquement, ils sont qu'à 2 points de Guingamp qui est barragiste.
Mais ils sont tellement dans une dynamique mauvaise. Je trouve que dans le contenu, il y a pas grand-chose. Tu sens les joueurs un peu démobilisés. Donc voilà, ça sera leur dernière chance vraiment, effectivement, contre Guingamp, à mon sens. Après, faut dire une chose, c'est que Saint-Etienne a fait un très beau match ce soir. soir, très très bon. J'ai adoré ce que Gasset a mis en place ce soir. Alors c'était peut-être un petit peu forcé du fait de la suspension de Rubi Kadri, mais Petar Berić, faut le laisser maintenant. Ouais. T'as vu que c'est un bon joueur, t'as vu qu'il est meilleur que Johnny. Il y a même pas photo. Et moi j'ai du mal à comprendre toujours pourquoi c'est Berić sur le banc et pourquoi c'est Johnny qui commence les matchs. Pareil, le petit Nordin. Alors il est jeune, mais on sait tous que c'est un très bon joueur, très prometteur. Il faut le mettre. Il a du feu dans les jambes, il est super intelligent, je trouve déjà vraiment très mature dans le jeu. Et puis moi j'ai bien aimé aussi le fait que voilà, il repasse à 4 derrière. Alors il parce qu'il joue souvent à 5 là, à 4 avec Cabella dans l'axe, c'est très bien. Tu sens vraiment Cabella, moi j'ai jamais été très fan de Rémi Cabella, mais dans cette position là, c'est son poste, c'est son il poste. Est beaucoup plus à l'aise. Je doute toujours de la complémentarité entre Cabella et Kadri, et donc ce soir Cabella, son Kadri a fait un match plutôt correct parce que les deux ont tendance à un petit peu se marcher sur les pieds, à toujours revenir dans les mêmes zones de jeu, mais j'espère que tactiquement ce que Gasset a fait, ça lui donnera des idées pour la suite de la saison.
Le code de 3, il était bien fait avec un bon équilibre et surtout un buteur. Ouais, quand tu as un buteur dans le groupe, il faut s'en servir effectivement, et quand on a des joueurs autour de lui qui peuvent prendre des espaces, faire des centres et surtout le trouver dans la surface de réparation, ça donne des buts.
Et puis juste côté stéphanois, faut dire très très gros match de Romain Amouma ce soir, et très bon match, bien aidé sur son côté par le jeune Saliba, qui aussi, c'est pareil, ça fait partie des jeunes du centre de formation de Saint-Etienne qu'il va falloir suivre.
Et on va accueillir Hervé, supporter des Verts justement, qui nous a appelé au 32-16. Salut Hervé.
Salut Nico, salut Jonathan, salut Fred.
Salut Hervé. Bonsoir, salut Nico.
Eh ben ouais, bonne soirée pour nous ce soir. Petite parenthèse, la dernière fois que Saint-Etienne avait gagné 5-0 face à Caen, c'était en 2002-2003. J'étais à Geoffroy Guichard, une fois n'est pas coutume, et Fred Piquion nous avait mis un doublé ce soir.
Ah, tu t'en souviens pas de ça?
2004-2005 plutôt.
2004-2005, c'était avec un brouillard.
Ouais, avec un brouillard.
Il a marqué d'ailleurs.
On n'avait pas fait exprès.
Ouais, j'avais mis un doublé, ouais. Effectivement, 5-0, on avait gagné à domicile.
5-0, ouais, voilà, avec but. Ouais, t'avais mis un doublé. Après, bon, je sais plus trop qui. Elbuic, je crois, avait mis un.
Elbuic, Pascal, il me semble.
Pascal peut-être.
Et Fred Mendy, il me semble aussi.
Et Fred Mendy, ouais, Fred Mendy.
T'es
aussi.
T'es là, je t'en souviens.
Ouais, je me rappelle. Hein.
Ah bah, et c'était pas souvent qu'il a mis des doubles, s'il faut dire.
Ah, tu me l'enlèves.
Non, mais laisse-le parler. Lui, il a pas fait une seconde sur un terrain de foot.
Oh non, pas ça ici.
Ils n'avaient pas dans la
terre. Il a pas fait une seconde sur un terrain de foot.
Argument carton rouge. Moi, tu me dis ça. Alors, attends, moi je dis les gars, faut régler ça.
J'ai mis un code coupé en une mi-temps quand même.
Non. Non, bah attends, on fait du foot ici, c'est pas l'after bagarre.
Je crois que c'est la même.
D'ailleurs, avec nous, Urban aussi.
Ouais, ça oui.
Ah, vas-y, tu viendras avec nous. Bah, ouais. Allez, viens, Fredo. Tu pourras venir aussi, Hervé, si tu veux.
Mais pas de souci, avec plaisir.
T'es où, toi, Hervé?
Moi, je suis en Aveyron, je suis à l'Aïeul.
C'est lui, on te veut dire, ouais, que lui, c'est lui qui a fait à manger le rat, Eric Dzeko.
Ah oui, c'est vrai, Hervé. Mais oui, Hervé.
Et qui, voilà, j'étais revenu pour les 10 ans de l'after dans le bus, alors où j'espérais voir Nico Villas.
Et je bossais ce soir-là, d'ailleurs.
Si
je bossais.
En fait, non, c'est pas qu'on t'a pas envoyé d'invitation, parce que vous voulez, on
non,
voulait
non,
pas qu'il vienne.
Non, j'ai commenté un match guêche ce soir-là. Non, mais
c'est vrai. Dire, c'est un sale type, faut pas qu'il vienne, quoi.
Ah, hein, j'étais là, il fallait payer les factures et tout. Maintenant, je m'en fous, je suis blindé, mais. Ah oui, c'est faux. Hein.
Mais on sait comment. C'est les transferts. Les transferts que tu fais sous la table.
Ouais, c'est ça,
ton ami, hein.
D'autres le font mieux que moi. Hervé.
Oui.
Saint-Etienne qui revient à un point de Marseille, tu la vois venir la question ou pas?
Je la vois venir, puisqu'a priori, Marseille devrait pas prendre beaucoup de points demain soir. Voilà, sans le souhaiter ou quoi, mais je pense que ça va être compliqué pour eux. Après, l'histoire du podium. Oui, non, pourquoi pas. Ouais, mais l'histoire du podium ou tout ça pour Saint-Etienne, avec les matchs qu'on vient de passer, on a clairement vu qu'il y avait un plafond de verre encore cette année pour Saint-Etienne qu'on n'arrivait pas à briser. On perd contre Lille, on perd contre Paris, on perd contre Lyon, on perd contre Marseille. Ouais, donc je pense qu'on est quelque part, on est à notre place. J'ai envie de dire, Saint-Etienne, c'est l'équipe la plus cohérente de la Ligue 1. On perd contre ceux
qui sont plus forts,
on va dire, qui sont plus forts, et par contre contre ceux qui sont présumés, en tout cas au début du match, plus faibles, on fait carton plein. On a fait carton plein sur la phase d'aller à la maison, puisqu'on était invaincu et on avait eu beaucoup de matchs à domicile face aux équipes, encore une fois, entre guillemets, dites inférieures. Là, les équipes dites inférieures, on les joue chez elles. On a joué Guingamp, on a joué Dijon, ce soir on joue Caen, et ça fait 3 matchs, 3 victoires pour Saint-Etienne. Donc voilà, je pense que si on fait carton plein contre ces équipes les plus faibles, qu'on arrive à gérer les... Allez, il doit nous rester 2-3 confrontations directes, Montpellier,
Il nous reste à jouer également Nîmes qui au final va peut-être être dans
Bordeaux.
Dans
ce il te reste, bien, je vais te dire, il te reste.
Bordeaux, Bordeaux Nîmes, un Amiens, plus Bordeaux, loin quand même.
Reims, Toulouse, Monaco, Montpellier, Nice et Angers.
Voilà. Ouais, il y a un, ouais, voilà, un calendrier favorable quand même.
On a je vous donne Marseille. Favorable. Attends, c'est pour ça que ce soir, bon, outre la faiblesse de Caen sur ce soir, mais battre un adversaire très faible, ben ça rapporte toujours 3 points. Hein. L'erreur de main du gardien, mais ça vaut pas un demi-but. Hein. Sur le premier, ça vaut un but, donc on prend, hein, tant pis pour eux. Mmh. Mais du coup, le fait de prendre des points contre ces équipes plus faibles, et d'autant plus ce soir avec des absents, et puis dans une période où Saint-Étienne venait de perdre 2 fois d'affilée, c'est la première fois depuis l'année civile, depuis le début, l'année civile, je vais y arriver, 2018, où on perd 2 matchs consécutifs. Donc voilà, il y avait une petite pression à Saint-Étienne, beaucoup d'absents, j'ai déjà dit. Le fait qu'on arrive à gagner et qu'on enfonce en plus le clou en mettant 2 buts en deuxième mi-temps, c'est plutôt de bon augure. Je pense que Jean-Louis Gasset a réussi à mettre les têtes à l'endroit. L'absence de Cazeri, ça va en faire hurler, mais c'est peut-être un mal pour un bien.
Et il est pas bon ces derniers temps, Cazeri.
Non, voilà, dans la période
quelques matchs où il est pas là. Hein.
Dire, Jonathan.
Et il alors, est nerveux, Cazeri, très Jonathan, nerveux en ce moment aussi.
Jonathan, je pense qu'on va être d'accord là-dessus. Cazeri, il a disparu des radars depuis que Selnaes n'est plus là.
Bah bien sûr.
Parce qu'on parle beaucoup de relations techniques, on entendait beaucoup de Cazeri Cabella, ça n'arrivera, j'ai peur. Jamais.
Ça marche pas. Cazeri, on l'a dit.
Ça marche pas. Cazeri Amouma, ça marche pas. Et on se rend compte que quand Amouma aussi peut s'exprimer, bah, il fait des
plus bons matchs.
Voilà. Mais c'est vrai que la vraie relation technique qu'il y avait à Sente, c'était Selnaes Cazeri. Sur les 12 buts que met Cazeri, il y a 3 ou 4 passes décisives qui sont faites par Selnaes.
Il le trouvait parfaitement dans la profondeur. Enfin, il se comprenait. Il avait une qualité de passe qui le servait vraiment bien, quoi.
Ils avaient une vraie complicité technique et la vraie complémentarité de Cazeri. Cabella, je crois qu'il n'y a même pas une passe décisive de l'un ou pour l'autre entre Cazeri et
Cabella. Ils ont trop le même profil.
Pardon ?
Trop le même profil. Trop les mêmes zones de jeu occupées.
Les mêmes zones de jeu et Amouma, un degré moindre, peut
se mettre là-dedans. Il reste un peu plus sur son côté, mais...
Voilà, mais pareil, c'est quelqu'un qui aime bien repiquer dans l'axe pour un petit peu provoquer les charnières centrales. Bon, mais là, quand il y a Cabella, Cazeri, c'est vrai que ça se marche dessus. Donc voilà, Selnaes, on va dire que c'est un petit peu, pour Cazeri, c'est le plus embêtant. Mmh. Et puis après, effectivement, comme vous l'avez dit, un garçon comme Berić, il a un ratio temps de jeu but depuis qu'il est à Saint-Étienne, ouais, qui est assez
impressionnant.
Ah, même, c'est un bon joueur, Hervé. C'est juste un bon joueur. Franchement.
Ah, exactement, c'est un neuf un petit
Fred,
peu à l'ancienne.
Moi, j'aime bien Berić. J'aime bien Berić.
Ouais, moi,
qu'il l'aligne pas, Gasset. Tu penses c'est quoi, c'est le profil,
c'est peut-être qu'il aime pas son profil de jeu, tout simplement, et qu'il préfère des joueurs.
Il aime bien jouer avec Cazeri dans l'axe.
Avec Cazeri dans l'axe, et c'est donc, des joueurs qui peuvent peut-être garder un tout petit peu plus le ballon. Techniquement, on peut jouer un peu plus avec les autres. Mais moi, j'aime,
il garde bien le ballon, hein, Berić, hein, dos au but, il est...
Non, mais voilà, c'est ça, parce que je trouve que...
T'as avoir un attaquant avec lui, tu vois, par exemple, c'est un...
Qui, moi?
Ouais.
On a le même profil, à peu près.
Ouais.
On a à peu près le même profil, de grand devant.
Je trouve que Berić, ce qu'il a très bien avec lui, c'est que quand il permet aux autres de mieux jouer aussi.
Autour, bien sûr, puisqu'il monopolise deux défenseurs centraux.
Il garde le ballon au but, il pèse vraiment sur la charnière et il a un très bon jeu en remise. Il est fin techniquement, je trouve, par rapport à son gabarit.
On remercie Hervé, supporter des Verts, qui s'appelait au 32-16. On accueille Benoît, supporter de Caen, qui est en direct avec nous dans l'after. Salut Benoît.
Bonsoir les gars.
Salut Benoît.
Bon Benoît.
Salut,
Benoît. Oui.
Caen est dernier ce soir. Ça oui. pique, il a quand même 5-0 à domicile face à Saint-Étienne.
Mmh. Non, mais de toute façon, là, voilà, on est dernier parce qu'on paye ce qui s'est passé l'été dernier. Je pense très fort à Jean-François Fortin ce soir. Hein. Je pense que ce soir, il doit être plutôt triste. La manière dont il a été sorti du club par Gilles Sergent et les autres dirigeants, ça a été une honte. Ça a été une honte, d'erreurs stratégiques depuis cette époque-là. L'été dernier, on prend un entraîneur, Fabien Mercadal, j'ai rien contre lui, le pauvre, mais aucune expérience en Ligue 1. Il arrive dans un club où on lui demande de tout changer. On prend des joueurs comme Yacine Bamou à 2 millions d'euros à Nantes. On change toute l'équipe de fond en comble. On arrive avec une équipe finalement de promus et des joueurs qu'on essaie de relancer. Ça fonctionne peut-être aller sur 2-3 semaines en début de saison. Ça va plus du tout à l'automne et on doit prendre une deuxième décision stratégique en décembre. On doit changer d'entraîneur, c'est évident. Surtout quand Mercadal dit j'ai plus de solution. Là, Gilles Sergent ne prend pas cette décision. Il y a le mercato d'hiver. On se dit ils vont peut-être ajouter quelques touches, notamment en attaque ici et là. Rien, aucun achat. Donc fin du mercato, vous avez Gilles Sergent qui dit on a fait un bon mercato parce que finalement on a gardé quelques-uns de nos joueurs qui avaient des velléités de partir et notamment Fred Gilbert. Qui a été vendu à Aston Villa, mais finalement qu'on s'est prêté. Bon, coach Courbis arrive, j'ai rien contre coach, le pauvre, mais il arrive dans une galère pas possible. Voilà, on lui demande de créer un duo avec Fabien, mais ça ne fonctionne pas. Et ce soir, voilà.
L'attelage est un peu curieux quand même. Histoire.
Comment?
Cet attelage de faire, tu vois, moi je.
Oui, non, mais il peut pas.
C'est bizarre, quoi. C'est comme si tu mettais ton entraîneur sous tutelle.
Oui. Non, mais un club comme Caen, vous voyez, moi je compare Caen à des clubs comme Auxerre, comme Nancy, comme Sochaux, voilà. Ces clubs-là, pour se maintenir en Ligue 1, ils ont besoin d'un homme à la tête du club qui soit compétent, qui ait de l'influence dans le milieu du football. C'est une question d'homme. Demain, Angers perd Stéphane Moulin, perd Piqueux, bah Angers, bah, il va tomber. Le Stade Malherbe, on a perdu Jean-François Fortin, on a perdu Gravelaine, on a perdu voilà tout ce qui nous avait permis de nous maintenir chaque année à la dernière journée.
Bah ouais, parce que malgré tout, Benoît, c'est ce que j'allais dire, c'est que vous avez flirté avec la relégation, il s'est passé de très très peu. Alors est-ce que c'est pas un mal pour un bien justement de tout recommencer pour la saison prochaine?
En tout cas, il n'y aura pas le choix. Hein. Il va falloir effectivement qu'il recommence les Canets pour l'année prochaine. On remercie Benoît, supporter de Caen, qui nous a appelé au 32-16. On rappelle victoire de Saint-Té 5-0 à Caen ce soir. Autre résultat de ce samedi, le match nul 0-0 entre Angers et Amiens. Guingamp qui est allé gagner 1-0 à Dijon. Guingamp qui est barragiste ce soir, du coup, qui remonte au classement. Et puis 2-2 entre Nîmes et Strasbourg. Dans quelques instants, on sera avec Christophe Lécuyer, justement, qui nous a fait vivre ce match entre Caen et Saint-Étienne sur RMC et qui va nous expliquer ce qui s'est dit en conférence de presse aussi. Ça va peut-être compléter ce que disait il y a quelques instants ce supporter de Caen. On va voir comment ont réagi les Canets en conf de presse notamment. A tout de suite avec Fred Piquion et Jonathan Macca.
RMC, l'After Foot.